au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Jean-Yves Andrieux, vous êtes historien de l'art contemporain, professeur à l'université de Rennes. Vous êtes membre du comité éditorial de deux revues, la Revue de l'art et d'histoire urbaine. Vous dirigez la collection Les Destinées du patrimoine aux éditions Belin et vous corrigez la collection Art et Société aux presses universitaires de Rennes. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de l'architecture, patrimoine et histoire, patrimoine et société, l'abbaye de Sénanque, deux points, Berlier et l'invention du mécénat industriel, la réception de l'architecture du mouvement moderne, image, usage, héritage. Et puis aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer l'architecture de la République, titre de votre dernier ouvrage publié en octobre 2009 au CEREN. Alors nous allons donc évoquer dans cette émission les lieux de pouvoir dans l'espace public en France, de 1792 à 1981, de la période révolutionnaire au dernier tiers du XXe siècle. Autant dire une entreprise là très ambitieuse. Alors qu'est-ce qui vous a conduit, Jean-Yves Andrieux, à vous lancer dans cette entreprise historiographique sur une durée aussi longue?
Qu'est-ce qui m'a lancé sur cette aventure? C'est effectivement une aventure un peu ambitieuse. Pendant toute ma carrière, j'ai travaillé sur l'architecture du 19e, du 20e siècle. J'ai commencé par des chemins un petit peu tortueux parce que j'ai travaillé au début sur les lieux industriels. En France, c'est pas tellement quelque chose de commun. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait des questions d'espace, de représentation, de visualisation des fonctions. Et de là, on passe évidemment à la traduction politique, qui n'est pas non plus quelque chose de très habituel chez nous. On n'est pas habitué à associer l'espace du pouvoir à des lieux qui en fait le représentent et qui lui donnent, je crois, toute sa force. Et donc, il m'a semblé qu'une synthèse sur cet ensemble-là serait la bienvenue. Ça a été une aventure longue, mais je crois qu'effectivement, j'ai eu raison de la tenter.
Alors, c'est 300 pages, magnifiquement illustrées. Est-ce qu'il y a un lien avec vos ouvrages précédents sur le patrimoine?
Il y a un lien en ce sens que le patrimoine est aussi une représentation du pouvoir d'une certaine façon et qu'il est modelé exclusivement par le politique. Donc, on est effectivement ici dans le même type de, comment dirais-je, de problématique. Et puis, de surcroît, l'idée républicaine, c'est une idée qui, au XIXe siècle, s'appuie considérablement sur l'histoire. Il y a un lien très évident quand on passe par le canal de l'architecture éclectique avec l'archéologie. Bref, on est dans une problématique qui est la même, puisque lorsque naît l'architecture républicaine, la grande aventure du patrimoine commence à se concrétiser. Tout ça marche un peu du même pas.
Alors, comment vous avez délimité votre objet historique et architectural, cette architecture de la République? Quels sont les bâtiments que vous avez sélectionnés, ceux que vous avez au contraire exclus sur ces deux siècles?
Il faut d'abord dire, si vous permettez, que la difficulté c'était de représenter quelque chose qui en réalité est un concept. Car la République c'est ça. Lorsqu'elle naît, 1792, la date que j'ai choisie et qui est celle des grands concours de l'an 2, on remplace la stature du roi, qui est un homme de chair et de sang, par une idée qu'on va représenter sous une forme plus ou moins incertaine au début, souvent par des jeunes femmes porteuses d'emblèmes. On remplace un être par une idée. Et donc, l'architecture de la République, c'est ça. C'est comment un certain nombre de générations ont réussi à représenter cette idée par l'intermédiaire d'édifices. Alors, la sélection ensuite des édifices, eh bien, il fallait, étant donné qu'on portait l'accent sur l'aspect emblématique, il fallait prendre des édifices qui soient effectivement liés au pouvoir, mais peut-être moins aux aspects fonctionnels, dont la République a été une grande pourvoyeuse aussi, par dizaines de milliers. Mais donc, je me suis plutôt centré sur les hôtels de ville, sur les préfectures, sur les mairies,
les palais de justice.
Sur les palais de justice, mais aussi sur toute l'architecture scolaire, car à mon avis, c'est la grande aventure républicaine, c'est celle-là. Quoi.
C'est le grand trait d'union de l'ouvrage, là.
À mon avis, oui, et c'est le grand trait d'union de la République aussi. Les écoles, bien entendu, mais aussi les lycées, quoi, qui sont, à mon point de vue, la représentation quasi parfaite, si tant est qu'on puisse employer ce mot en la matière, de l'idéal républicain.
Je crois que pour donner un ordre de grandeur, je ne sais plus si c'est exact, j'ai lu qu'il y avait 40 000 écoles construites dans l'entre-deux-guerres.
Non, pas dans l'entre-deux-guerres.
Entre la fin du 19e et 1914 ?
Entre le moment où la République s'installe.
1880 ?
1880, oui, et où les lois scolaires commencent à s'appliquer. Et 1914, oui. Et la guerre, donc c'est à peu près 40 000. Oui.
Donc on a quand même du mal à imaginer un programme pareil, 40 000 écoles qui sortent comme ça de terre.
C'est un programme absolument phénoménal. Certes, il existe déjà des réalisations avant quand même, mais dans le domaine scolaire, finalement assez peu, car les régimes antérieurs ne se sont pas vraiment intéressés à l'école. C'est ce qui fait la grande spécificité de la Troisième République, l'une de ses grandes spécificités. Et donc le programme est effectivement vertigineux et c'est lui qui, à mon point de vue, va contribuer à donner de la République une image quasi corporelle, quasi charnelle sur le territoire. Parce que c'est là que les électeurs, que les citoyens vont la rencontrer, en même temps que dans les petits hôtels de ville, les petites mairies, mais qui sont précisément souvent liées à l'école. Et on a souvent au XIXe siècle une mairie-école.
Voilà,
c'est le lieu, dans le petit village, c'est le lieu où converge la citoyenneté.
Jean-Yves Andrieux, vous placez l'histoire de l'architecture républicaine dans une mise en perspective qui va de 1792, de la période révolutionnaire, à 1981. Alors, expliquez-nous l'importance de l'éclosion de l'architecture de la République en pleine période révolutionnaire, parce que là, effectivement, c'est une première genèse qui va après s'épanouir davantage. Vous allez nous l'expliquer, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez commencé tout à l'heure.
Oui, j'ai déjà dit deux mots là-dessus, effectivement. Alors pourquoi 1792? En 1792, on vient de supprimer les académies. On a...
Les académies royales.
Les académies royales, bien sûr. Et donc on a, je dirais, une quasi table rase intellectuelle sur laquelle il faut construire du nouveau, étant entendu que le régime politique n'est pas complètement stabilisé et qui n'a pas sa forme définitive. Et donc à ce moment-là, quelqu'un a l'idée de lancer un concours d'architecture qui aurait pour but de donner à la République les équipements dont elle a besoin, mais aussi de la représenter.
Comment ? Comment la représenter ?
Comment la représenter ? Et donc c'est ce programme un peu lâche, certes, mais qui est aussi un problème très artistique, qui est proposé aux architectes. Et alors, il va y avoir une émulation absolument extraordinaire, et c'est un des bienfaits de la période. De très jeunes architectes ou non-architectes vont répondre.
Des artistes.
Des artistes. Des gens qui viennent de province, ce n'est pas uniquement une affaire de Parisiens du tout.
Tout le monde a répondu.
Beaucoup de réponses, mais des dizaines de réponses vont arriver et vont être sélectionnées par les nouveaux édiles de la République. Et donc on va avoir là une première génération de ce qu'auraient pu être les bâtiments républicains qui ne seront pas construits parce que le temps ne sera pas permis à ces hommes-là, il n'y en aura pas suffisamment pour les construire et donc ça va rester une idée. Ça aussi c'est quelque chose de très spectaculaire dans l'histoire française, c'est que la République qui est une idée en tant que telle, elle commence aussi par la représentation d'une idée dans une architecture qu'on appelle une architecture de papier, puisque quasiment rien n'a été construit. Mais les temples décadèrent, c'est-à-dire...
Puis il y a eu des constructions éphémères, en fait.
Il y a eu beaucoup de constructions éphémères, tout à fait, dans les fêtes, etc. Mais du solide, du permanent, il n'y en a quasiment pas. Et donc, en revanche, on va conserver un tas de schémas, de modèles, d'idées qui vont constituer la première représentation de l'architecture proprement républicaine.
Parmi ces premiers architectes liés à la période révolutionnaire, il y a un projet extraordinaire à Lille, un théâtre et bain du peuple pour Lille, un projet de François Verly, qui est un projet monumental, c'est dire l'enthousiasme et la créativité et l'enthousiasme pour justement créer une nouvelle ville et de nouveaux centres politiques. Là, vous pourriez nous décrire un petit peu le projet de François Verly, qui était un projet pour la reconstruction de la ville qui avait été bombardée par les Autrichiens en 1792.
Le projet de Verly, c'est un projet, on peut dire, de nouveau centre de la citoyenneté de la ville. C'est-à-dire qu'il regroupe tout un tas de fonctions autour d'une place centrale, qui est une place à demi enterrée, puisque vous avez des arcades basses. Et au-dessus, ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce de dalle avec, comment dirais-je, des groupes sculptés. Mais l'essentiel, si vous voulez, c'est l'ordonnance qui ceinture tout cela. Et puis, au centre, l'émergence d'un grand bâtiment qui est prévu pour installer une assemblée du peuple et qui est en même temps un théâtre. Avec ces formes qui sont toujours les formes qu'on retrouve pendant la Révolution, ici c'est une demi-hémisphère. Et donc une façade très plate, très lisse, quand même cassée par quelques colonnes. Donc on est dans une architecture qui est une architecture qui se veut très parlante. C'est le mot de l'époque, c'est-à-dire que le spectateur qui la regarde comprend ce qu'elle signifie. C'est quelque chose qui nous est maintenant étranger dans la culture actuelle. Mais à l'époque révolutionnaire, les quelques symboles qu'utilisent les architectes sont connus par les gens qui ont un tout petit peu de culture et même par des gens, qui les fréquentent sans particulière connaissance. Donc c'est un peu ce projet qu'on a à Lille, de regrouper l'ensemble de ces fonctions. C'est déjà une première représentation du politique en quelque sorte.
Comment va évoluer alors ce premier style républicain ? Vous avez parlé tout à l'heure d'éclectisme. Est-ce qu'il y a un style républicain ? Que vont devenir tous ces projets ? Comment vont-ils se concrétiser dans le temps ?
Dans le temps, c'est quand même un peu compliqué parce que au XIXe siècle, la République n'est pas un régime permanent.
Voilà.
Elle a subi des éclipses fort longues et elle n'est revenue de façon définitive que en 1871, comme chacun sait. Il va donc falloir passer par un certain nombre d'autres régimes politiques pour parvenir à une représentation de ce qu'on peut appeler une architecture républicaine. Et en même temps, au milieu du siècle, triomphe ce qu'on appelle l'éclectisme, c'est-à-dire l'usage que l'on peut faire des styles de l'Antiquité en les adaptant à un nouvel usage, et c'est-à-dire aux besoins de la société moderne. Donc il y a ces deux aspects-là. Il y a la fusion de l'histoire et puis la réponse aux besoins de la société dans laquelle on vit. L'éclectisme passe par cela. Il y a un troisième paramètre pour l'architecture républicaine qui est qu'on va la régulariser. On va passer par un stade où on va faire des projets modulaires, où on va expliquer aux architectes comment construire facilement sans dépenser trop.
Ouais, c'est l'État qui commande.
C'est l'État qui commande, bien entendu, oui. Même lorsque le régime n'est plus républicain. Et cette phase de normative, en quelque sorte...
Genèse des normes.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la première moitié du siècle. C'est à ce moment-là qu'on va les mettre en place. Il y a aussi une autorité centrale qui est le Conseil des bâtiments civils
qui va se mettre en place.
Se met en place au niveau parisien, puis progressivement au niveau départemental. Et avec tout ça, si vous voulez, on a une espèce de guide pour les architectes. Et donc l'architecture républicaine, ça va être un mélange de tout ça, avec un dernier ingrédient qui est la représentation symbolique du pouvoir.
Alors, quelle est-elle ?
Alors, la représentation symbolique du pouvoir, c'est l'usage d'un certain nombre de symboles, les trois lettres, naturellement, que chacun connaît, les trois couleurs que l'on peut apposer sur les façades, des symboles révolutionnaires qui vont être différents suivant les régions, parce qu'on va trouver le bonnet phrygien, par exemple, dans le Midi, mais on aura aussi quelques représentations de Marianne, on aura le faisceau de Lictor. Vous avez toute une nomenclature extrêmement simple, en réalité, qui représente la République et qui va venir s'apposer sur
les façades ou à l'intérieur.
Ou à l'intérieur des édifices. À l'intérieur des édifices, il y aura des programmes de peinture absolument extraordinaires.
Dans la période du XIXe siècle et avec la mise en place de la Troisième République, il y a une grande concordance entre les architectes, leur production, les architectures et l'élan national de la République. Comment vont-ils répondre à cet enthousiasme national et, par rapport au siècle d'avant, par rapport à la Révolution française ? Est-ce qu'on retrouve des éléments fédérateurs ou va-t-il y avoir un autre langage architectural pour répondre à cette attente nationale ?
Eh bien, lorsqu'on arrive à l'époque de la Troisième République, le milieu de l'architecture n'est plus tout à fait le même. Il est en train de se structurer, et puis il y a une énorme importance qui est prise par l'École des Beaux-Arts. Donc l'École des Beaux-Arts est un peu le creuset, on peut dire.
Avec sa section d'architecture.
Avec sa section d'architecture. Le creuset de toute cette virtuosité dont vont faire preuve les architectes concernant le maniement des formes. Et donc, vous avez aussi en même temps un corps professionnel qui s'organise avec toutes les compétitions, toutes les difficultés interrelationnelles qui peuvent exister entre les hommes, et puis une commande qui est néanmoins facilitante parce qu'elle va être massive. Et donc, comme il y a des dizaines de milliers d'édifices à construire, que le pays est à équiper de façon colossale, évidemment, on va trouver beaucoup de possibilités de construire. Des bâtiments qui ne sont pas tous naturellement fastueux, mais qui peuvent être très simples et néanmoins répondre à des fonctions précises.
On rentre aussi dans l'âge industriel avec...
Ah oui, l'architecture républicaine, c'est l'architecture de l'âge industriel. C'est absolument indissociable.
L'architecture de masse, ça va être un peu plus tard.
L'architecture de masse, ben on peut déjà dire que c'est une architecture de masse vu les chiffres, mais bon, c'est plutôt le XXe siècle, bien sûr, qu'on désigne avec cette formule.
Alors, quelles sont justement les formes? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a un langage particulier? Est-ce qu'il y a un style républicain ou pas?
On pourrait dire qu'il y a un style républicain dans les écoles, essentiellement dans les lycées, parce que c'est là que les nécessités de la fonction et de ce qu'on va appeler l'architecture rationnelle vont se combiner avec l'éclectisme. Et donc, on va utiliser des nouveaux matériaux, on va mettre en œuvre la brique, le métal, on va les montrer sur les façades et on va même s'en servir pour tirer des effets. Lorsque vous regardez les écoles parisiennes en particulier, c'est absolument frappant. Chacun, même non spécialiste, peut reconnaître qu'il s'agit d'une école de la République parce qu'elle est datée par l'usage de ces nouveaux matériaux et de cette nomenclature qui est une nomenclature, encore une fois, très très rationnelle.
Et réglementaire aussi, rationnelle.
Réglementaire. Un milieu de l'architecture qu'on appelle les rationalistes qui l'a emporté à ce moment-là et qui domine la commande, en particulier pour les écoles.
Est-ce qu'il y a place à la créativité alors dans cette commande d'État?
Il y a néanmoins place à la créativité parce que ce n'est pas du tout une architecture normée. On a commencé par des normes au début du siècle, mais lorsqu'arrive la Troisième République, les édiles ont l'intelligence de les abandonner. Et ils constituent ce qu'on appelle un programme, en particulier avec l'aide des médecins. Qui jouent les hygiénistes, qui jouent un rôle important dans cette affaire-là. Ils expliquent ce qu'on doit donner, c'est-à-dire le cubage d'air, comment dirais-je, la dimension des fenêtres, ils veulent un éclairage de tel type. Et puis une fois qu'ils ont dit ça, eh bien ils laissent les architectes traduire librement. Et c'est ça qui donne aussi la variété de l'architecture républicaine sur l'ensemble du territoire. Elle n'est pas la même à Toulouse et à Lyon, c'est différent. Donc il y a eu vraiment une créativité, oui, ça c'est sûr. Une créativité dans la série.
Dans les périodes de reconstruction, là aussi il y a une commande publique très forte et l'architecture de la République est à reconstruire. Est-ce que c'est des moments qui reflètent bien historiquement l'air du temps en fait? C'est en concordance avec les matériaux disponibles à cette époque? Est-ce qu'on est pressé? Est-ce qu'au contraire on fait table rase? Est-ce que c'est l'occasion de concevoir des bâtiments autrement, même si les contraintes sont très fortes en période de reconstruction, puisque les moyens ne sont pas très élevés justement?
Non, je crois que là il faut distinguer les deux reconstructions.
Alors commençons par la première, celle qui suit
1914-1918. Qui est complètement différente de la seconde qui suit 1939-1945. En 14-18, chacun le sait, les destructions sont certes énormes, mais elles sont limitées au nord et à l'est de la France. Donc l'ensemble du territoire n'est pas touché. La reconstruction, pour différentes raisons qui ne sont pas entièrement liées au territoire, va prendre un côté très régionaliste. C'est-à-dire on va avoir, l'école régionaliste va l'emporter, et donc on va avoir des tentatives pour essayer d'adapter les nouvelles constructions aux territoires sur lesquels elles sont appelées à s'installer. C'est ce qu'on voit par exemple dans la reconstruction de Reims ou dans celle d'un certain nombre de villes du Nord qui ont été détruites pendant la guerre. Ça n'empêche pas les constructions de rester intéressantes, les architectes d'utiliser les nouveaux matériaux comme le béton armé qu'ils allient avec la brique. Mais ce n'est pas une reconstruction très spectaculaire de ce point de vue quand même. Celle de la pré-Seconde Guerre mondiale est évidemment complètement différente parce que là on est en phase de destruction massive. Des villes entières ont été rasées et donc le problème n'est plus celui d'une architecture républicaine, vraiment.
Celui de la ville.
C'est celui de la ville.
Oui. Et lié aussi à l'appel des Trente Glorieuses, on va dire,
oui.
À cette formidable croissance
que connaît
à l'époque le pays.
Et donc au besoin d'équipement monumental qu'il caractérise aussi à cette époque-là, puisque la France avait un retard considérable avant cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en matière de logement. Il faut construire énormément de logements. Et naturellement, au fur et à mesure où les quartiers des villes s'étendent, eh bien, les équipements publics sont nécessaires aussi. Donc il y a une nouvelle monumentalité républicaine, évidemment, qui se crée à ce moment-là, comme se crée une nouvelle monumentalité religieuse au même moment. Mais bien entendu, elle est fondue dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et la reconstruction est dominée par des préoccupations qui sont quand même des préoccupations autres. Il faut se procurer les matériaux. Il faut là revenir à des normes, parce qu'on ne peut pas faire autrement, qui sont beaucoup plus strictes et beaucoup plus impératives. Et en réalité, on va s'apercevoir, puisqu'ensuite, comme vous venez de le dire, on entre dans une période de croissance où on va construire énormément. Olivier Guichard disait qu'il construisait un collège par jour. Donc on va avoir une architecture qui va sombrer un peu dans la norme, il faut bien le dire, pendant 2 à 3 décennies. On a construit un peu à la va-vite, on s'est laissé emporter par les normes, par le calcul du métrage et ainsi de suite. Et c'est vrai que l'architecture a perdu toute saveur.
Pendant cette période-là,
il va falloir attendre les années 70 pour qu'on se rende compte qu'une monumentalité nouvelle est à réinventer.
Elle est liée à quoi, ce sursaut d'inventivité dans les années 70 à 68 ou...
Non, c'est la prise de conscience que l'architecture de masse peut être dangereuse. Et donc, la circulaire d'Olivier Guichard qu'on appelle « ni tour ni barre », qui interdit de construire donc des grands ensembles. Après, on ne va plus construire très haut et très sériel. On a compris qu'il ne fallait pas continuer comme ça. À côté de ça, il y a aussi l'idée qu'à Valéry Giscard d'Estaing, qui prend le pouvoir un peu après, que la France doit pouvoir se représenter par l'intermédiaire de ses terroirs. C'était une grande idée qu'il avait derrière la tête. Il n'a jamais pu vraiment la mettre complètement en exécution, mais néanmoins, il y était très attaché. Et donc, il y a eu un renouveau de l'architecture locale à ce moment-là, pendant quelques années. Et c'est ça qui a donné un à mon avis, l'impulsion, c'est le moment aussi où le patrimoine est en train d'exploser. C'est ça qui donne l'impulsion, qui va ensuite éclore après 1981, où là, on retrouve vraiment la volonté d'une nouvelle architecture symbolique.
Mais ce sont les grands projets des présidences de la République.
Les grands projets de François Mitterrand, bien sûr, qui ont été abondamment décrits, à Paris bien entendu, mais pas seulement, il y a aussi eu des projets provinciaux. Et dans la foulée, ça, il faudrait poursuivre la synthèse au-delà de 1981, ce sera peut-être fait un jour, il y a un renouveau de l'architecture publique qui est incontestable, et même, je pense, une nouvelle façon d'expliquer la République. Puisque c'est plus la République centralisée, la République devient beaucoup plus complexe. Étant donné que c'est une idée depuis le départ, il est normal qu'elle évolue. Et donc il faut à nouveau trouver une nouvelle forme pour l'expliquer aux Français d'aujourd'hui. Et à mon avis, les architectes ont beaucoup d'idées depuis 20-30 ans.
Et vous pouvez nous dévoiler un peu ces nouvelles idées-là ? Ça fera peut-être l'objet d'un prochain livre.
Oui, ça fera l'objet d'un prochain livre. Je pense que ça mérite une synthèse sur les 30-40 dernières années. Il y a un nouvel usage des matériaux, il y a une nouvelle réflexion sur l'espace, il y a une nouvelle articulation avec la ville. Et tout ça donne une morphologie des bâtiments qui est complètement différente, avec beaucoup plus d'audace, beaucoup moins de respect de normes étriquées. On s'aperçoit dans les lycées, par exemple, qu'on peut construire des angles aigus et qu'on n'est pas forcé de faire que des façades lisses. Tout ça fait qu'on a une symbolique qui est une symbolique qui, à mon avis, retrouve les origines de l'architecture républicaine, c'est-à-dire celle de l'architecture parlante.
Du sens dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, on n'a plus besoin de mettre République française sur le bâtiment. On peut l'expliquer par une morphologie, par une façade, par un certain nombre...
Par un usage aussi,
bien entendu, mais par des formes qui deviennent parlantes pour les gens. Et on commence à savoir redistinguer aujourd'hui un bâtiment public d'un autre et un bâtiment républicain d'un autre, alors que pendant plusieurs décennies, on a un peu perdu ce lien. Donc je serais plutôt optimiste en ce qui me concerne pour ce qui est de la période actuelle.
Et parmi les bâtiments qui vous ont servi là, pour vous appuyer dans votre travail, les palais de justice,
oui,
sont des projets sur le temps long là, de 1792 à 1981. Est-ce que justement, à propos de sens et de clarté, puisque la justice parle à tout le monde, est-ce qu'on pourrait prendre deux exemples, un exemple récent, là, de palais de justice, qui peut montrer comment justement cette architecture républicaine a évolué ou quel sens a-t-elle voulu trouver ou retrouver ?
Oui, on peut prendre un exemple pratique, c'est celui de Nantes. Puisque à Nantes, il y a un palais de justice qui a été construit au XIXe siècle, qui est tout à fait caractéristique et absolument magnifique, tout à fait caractéristique de l'époque. Donc on a l'emmarchement sur lequel est juchée une immense colonnade qui fait que quand le justiciable pénètre dans le lieu, il est un peu écrasé parce qu'il y a une masse considérable.
Premier effet.
Premier effet de l'architecture, puis toute une symbolique autour, des lions, des têtes, comment dirais-je, de personnages mythologiques furieux. On sent qu'on entre dans un temple. Et quand on pénètre ensuite à l'intérieur, on est dans une, ce qu'on appelle la salle des pas perdus, où il y a une cour qui est ceinturée par une grande colonnade. Donc là, on sent qu'on peut parler un petit peu plus librement, mais sur cette cour s'ouvrent des portes qui, elles, sont un peu plus mystérieuses, ce sont les portes des juridictions. Donc ce palais de justice, il est construit au cours du XIXe siècle, et donc il va être remplacé, étant devenu trop petit, autour de l'an 2000, par le nouveau palais de justice construit par une des vedettes de l'architecture actuelle, Jean Nouvel. Et on voit bien la façon dont la monumentalité évolue, et dont en même temps elle garde quelque chose d'extrêmement classique. Car ce nouveau palais de justice, c'est comme une espèce d'œuvre complètement noire, puisque Jean Nouvel est un adepte de la couleur en question, hein, qui est construite sur l'île de la Loire, que la ville est en train de rénover complètement aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un succès à mon avis. Et le palais de justice lui donne une espèce de force. Il est installé en face d'une passerelle, on peut donc maintenant joindre la ville directement. Il y a cette articulation avec le tissu urbain à laquelle je faisais allusion à l'instant. Et puis il y a une façade qui est constituée d'une immense colonnade avec des pylônes noirs très fins.
Donc on retrouve,
la même symbolique.
La même symbolique.
La même façade très longue, mais ici très étirée, très épurée. Et quand on rentre à l'intérieur, on est dans un bâtiment qui est totalement sombre, tout est complètement noir. Et il y a la grande salle des pas perdus, qui est une immense nef couverte, sur laquelle ouvrent, sur la droite quand on entre en principe, les salles des juridictions, dans lesquelles tout le monde peut pénétrer librement. Donc on retrouve un petit peu l'espace de la justice très stable. Ça, c'est une de ses caractéristiques depuis toujours. On retrouve cette caractéristique-là, certes, mais dans une redéfinition formelle qui, à mon avis, est extrêmement réussie. Parce qu'on garde la tradition et en même temps, c'est un bâtiment que tout le monde comprend.
Donc l'architecture de la République, c'est une architecture immédiatement accessible.
Elle doit être immédiatement accessible et compréhensible. Si ce n'est pas le cas, c'est raté.
C'est raté.
Et il y a des exemples ratés, bien entendu, mais il y en a aussi de réussis comme celui-là.
Jean-Yves Andrieux, comment s'exprime la monumentalité républicaine dans la ville, quand l'État doit reconstruire des villes entières ou des quartiers entiers?
Alors effectivement, cette monumentalité commence à se redéfinir à l'époque de ce qu'on appelle la seconde reconstruction, après 1945, au moment où on est obligé de refaire de neuf, non seulement des quartiers entiers, mais des villes complètes. Parce qu'il faut reconstruire Saint-Malo, il faut reconstruire Saint-Nazaire, il faut reconstruire Brest, il faut reconstruire Le Havre, qui sont les exemples les plus célèbres, en particulier celui du Havre. Et à ce moment-là, donc, les architectes sont tenus de combiner de nouveaux plans d'urbanisme, puisqu'il faut redessiner l'ensemble du tissu urbain, dans lesquels ils doivent penser à insérer une monumentalité qui non seulement joue sa fonction, mais puisse aussi servir à nouveau de symbole. Et on imagine à ce moment-là d'immenses, comment dirais-je, places urbaines qui vont redéfinir une nouvelle morphologie, une nouvelle monumentalité, dont l'exemple le plus célèbre, c'est Le Havre, mais celui de Brest est aussi très très parlant. Et au Havre, donc, Auguste Perret imagine en particulier une très large place de l'hôtel de ville sur laquelle il construit un édifice avec une très très grande tour qui lui donne un nouveau symbole. Et on retrouve cette nouvelle relation entre l'église et l'hôtel de ville, puisqu'il y a aussi
par la tour
Saint-Joseph avec la grande tour au Havre qui dialogue avec la tour de l'hôtel de ville. Donc c'est une nouvelle façon de penser l'espace public au centre de la ville, puis de l'exporter sur les périphéries. Et c'est ainsi que naît une nouvelle façon d'insérer le symbole. Et on va retrouver ça dans les villes nouvelles, un petit peu plus tard, ensuite à l'époque gaulliste. Et c'est de ces laboratoires-là qu'on va peut-être un peu oublier pendant quelque temps, une fois que le gros effort de reconstruction sera fini. C'est de ce laboratoire-là que va naître l'effort de réaménagement de la ville qui va se manifester après 81 essentiellement.
Voilà, qui font partie d'autres livres à venir.
C'est une autre époque, oui.
D'autres époques. Merci beaucoup Jean-Yves Andrieux pour toutes ces explications.
Merci à vous.